Eh bien, aujourd'hui, sur les ondes de Choc FM, en ce début d'année 2015, j'ai le grand plaisir de vous présenter une nouvelle chronique. C'est une chronique sur la bande dessinée, la fameuse BD. Alors, avec nous, pour nous aider un petit peu à découvrir cet art de la bande dessinée, la BD, j'ai Serge Paul. Bonjour Serge.
Bonjour Xavier, comment vas-tu? Bonne année.
Bonne année à toi aussi. Alors justement, la BD, on parle de BD, mais est-ce que c'est pas un peu une forme de littérature pour les enfants, la BD?
Alors, effectivement, certains réfractaires pourraient dire que c'est un art pour les enfants. Mais ça dépend des pays, en fait. Si on prend ça de façon historiquement, dans les premiers temps, par exemple, aux États-Unis, la bande dessinée, c'est là qu'est vraiment où elle éclate, au début du XXe siècle. Mais elle éclate surtout dans la presse. C'est vraiment un art de la presse. Les journaux américains se font vraiment concurrence dans ce domaine-là. Et donc, c'est vraiment un art qui s'adresse aux adultes. La première BD qu'on va trouver dans la presse américaine, vers les débuts du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle de Yellow Kid, et c'est la première série en fait publiée qui connaît un énorme succès. Et dans cette BD, qu'on en voit pour la première fois en fait apparaître ce qu'on appelle les ballons ou les bulles, ou pour les plus héréditaires, les phylactères. Et donc en fait, c'est la première série de la BD qui va apparaître et qui est vraiment pour les adultes. En Europe, en fait, par contre, c'est plus pour les enfants. Les journaux sont un peu plus conservateurs à ce niveau-là, et la première vraiment grosse série, c'est ce qu'on appelle série Zig et Puce, qui sont deux petits enfants qui font des bêtises un peu partout et qui va débuter en 1925. Et c'est la première en fait qui va utiliser les bulles. Auparavant, dans les toutes premières BD, on utilisait vraiment plutôt un texte et une image avec un texte juste en dessous.
D'accord.
Si on reprend effectivement le slogan du fondateur du journal de Tintin, la BD quand même s'adresse aux jeunes de 7 à 77 ans.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'un art francophone? Moi, j'ai l'impression que les bandes dessinées, lorsque je vais en Europe lors de mes vacances, j'ai l'impression que c'est plus populaire en Europe qu'ici. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une forme d'art particulièrement francophone?
Oui et non. Effectivement, on va trouver un marché de la bande dessinée énorme en Europe, que ce soit en Espagne, en Italie, en France, en Belgique surtout, parce que c'est là que ça a vraiment commencé. Mais on va en trouver dans tous les pays. Il n'y a pas uniquement une bande dessinée européenne, une bande dessinée américaine. D'ailleurs, les termes varient suivant les pays. On va parler de comics ici aux États-Unis, en Amérique du Nord, parce que en fait, les premières BD étaient surtout des BD comics. On va parler aussi de historieta, des petites histoires en Espagne, de fumetti en Italie, parce que à cause des petites fumées, à cause des ballons, ou aussi le manga, qui est une grande culture de BD du Japon. Donc, c'est pas forcément francophone, et elle va vraiment être différente de pays en pays. Et la façon dont on définit la bande dessinée est différente aussi dans ces pays-là. Par exemple, dans la fin des années 50, on parlait plus d'une BD illustrée que de bande dessinée. La bande dessinée, comme on le connaît maintenant, apparaît vraiment dans les années 40. Ça vient en fait de l'anglais comic strip, parce que donc c'était une forme de bande. Il y avait en fait 5 cases où il y avait beaucoup de gags dans une bande dessinée, un peu comme Calvin et Hobbes qui ont commencé effectivement dans la presse.
D'accord. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de chiffres de combien de bandes dessinées sont publiées dans le monde ou par exemple dans certains pays?
Oui, c'est quand même assez important. On s'en rend pas compte vraiment. Par exemple, si on prend les chiffres en France, en 2013, il y a plus de 44 millions de volumes bandes dessinées qui ont été vendus pour un chiffre d'affaires par exemple de 245 millions d'euros. Et ça représente en fait à peu près 10% du chiffre d'affaires du marché total du livre.
D'accord.
Mais faut faire attention, beaucoup d'auteurs ne vivent pas encore de cet art. En France, par exemple, on va avoir que 1500 auteurs qui vivraient encore avec un peu de difficulté en 2013 de la bande dessinée. Mais elle évolue en fait. Ça, on parle vraiment de la bande dessinée qui est publiée en livre. En Europe, effectivement, c'est publié sur des bandes dessinées cartonnées. Ici, c'est plus sur du papier flottant, on va dire. Je ne trouve pas le terme en français, pardon.
Oui.
Mais on évolue beaucoup. On va trouver beaucoup dans les bandes dessinées maintenant sur le numérique et sur les iPads. Ça s'est beaucoup développé, tout ça. Donc, ces chiffres-là, sont plus sur les chiffres de la publication papier, mais il y a une grosse évolution au niveau du numérique actuellement.
D'accord. Au cours de l'histoire de la BD, est-ce qu'il y a eu des moments cocasses, des événements un petit peu drôles, et tu pourrais nous en raconter quelques-uns?
Oui, effectivement. Un petit événement qui pourrait être noté dans un des premiers livres de Tintin. Si vous faites attention aux livres de Tintin, surtout les premiers Tintin en Amérique et Tintin au Congo, ça peut être un petit peu être dénigrant la façon dont Hergé, qui s'appelle en fait Georges Rémy, c'est GR, donc à l'envers ça fait Hergé, donc c'est devenu Hergé, a changé en fait sa façon de voir les choses en rencontrant un jeune étudiant qui s'appelait Chang Jong-jen.
D'accord.
Et cette rencontre, en fait, il l'a écrite dans la BD du Lotus Bleu, sur une page, au moment de son arrivée au Japon, en Chine, Tintin rencontre un jeune chinois qui s'appelle Chang, et dans cette page de rencontre, Tintin raconte comment les Européens voient les Chinois. Et c'est c'est très très cocasse la façon dont ils voient ça, où les Chinois sont censés avoir des tout petits pieds, sont censés jeter les bébés dans les rivières, plein de choses assez cocasses, et qui permettent en fait, c'était assez intéressant de la part de Hergé, ça permet de de rendre un peu moins sérieux ce problème de culture qu'il y avait entre les Européens et les non-Européens.
D'accord.
et de démystifier tout ça. Autre petite anecdote un peu plus tard, qui va avoir lieu en fait dans les années 60 avec le journal Pilote. Beaucoup de grands artistes ont été vus un peu bizarrement au départ. Notamment l'artiste qui s'appelle Fred, qui a créé le personnage Philémon. Goscinny, qui était en fait le directeur de Fred, lui aurait dit à un moment donné, c'est formidable ce que tu fais, on le passe. Et il a passé dans son journal les premières aventures de Philémon. Il vit en fait sur le monde de lettres de l'océan Atlantique. Il n'a jamais lu cette BD de 15 volumes, c'est fantastique.
D'accord.
Et en fait, quand la BD est sortie, il y a eu une avalanche de lettres de lecteurs à l'époque, parce que les gens écrivaient à l'époque avec des stylos.
Eh oui.
Et en fait, les gens ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dessinateur qui ne sait pas dessiner? On ne comprend rien. Et Goscinny a dit à Fred, on insiste, les gens vont finir par s'habituer. Et maintenant, Fred est vraiment un classique de la bande dessinée. On ne peut pas s'en passer. Il est décédé malheureusement il y a quelques années, mais c'est fantastique. Si vous avez l'occasion de trouver une bande dessinée de Fred, prenez-la et habituez-vous au dessin de Fred, c'est fantastique.
D'accord. Je crois que dans chaque chronique, tu veux nous donner peut-être une ou deux nouveautés. Alors, est-ce que tu as une ou deux nouveautés cette semaine à nous,
oui,
à nous faire part?
Tout à fait. Alors, on va prendre des nouveautés du côté un petit peu de la France. Je parlais de nouveautés un peu plus... Hors France, peut-être dans la prochaine chronique. Il y a Spirou et Fantasio qui, effectivement, commence dans les années 60 et qui sont encore nouveaux. On arrive au numéro 54. Et ce qu'il faut savoir avec Spirou et Fantasio, c'est qu'il a été développé par plusieurs auteurs. Franquin, notamment, l'a pas mal développé. Et donc, il y a le numéro 54 qui est sorti en décembre et qui est dessiné par Velman et Johan. Et en fait, dans cette nouvelle série... c'est une série qui traite beaucoup de la guerre civile en Afrique, de l'implication des nations occidentales, ainsi que du traitement médiatique biaisé de ces guerres. Donc c'est pas mal intéressant de voir comment ces bandes dessinées s'adaptent en fait à l'actualité, tout en restant drôles et un peu enfantines de temps en temps. Spirou et Fantasio, ce qu'il faut savoir, c'est toujours des chercheurs de trésors et qui vont dans des aventures rocambolesques. Et c'est très très bien fait, notamment donc avec cette adaptation de l'actualité mondiale, avec tous les problèmes effectivement que ça connaît et ces traitements de l'actualité. Donc un numéro 54 de Spirou et Fantasio qui s'appelle Le Groom de Sniper Alley, qui est très très bien fait.
Okay. Et où est-ce qu'on trouve les bandes dessinées justement, si un Torontois veut en trouver, où est-ce qu'on en trouve ces bandes
dessinées?
Alors,
il faut aller sur Markham Avenue, qui est sur Bloor et Bathurst. C'est le seul magasin qui reste, malheureusement, et qui s'appelle Beguiling. C'est juste à côté de l'ancien, parce que c'est bientôt parti.
Oui.
C'est le grand magasin phare de Toronto avec tous les trucs plus termes.
Oui.
C'est sur Bloor et Bathurst.
Oui.
Et, euh,
Beguiling, ça s'écrit B-E-G-U-U-I.
B-E-G-U-I-2-L-I-N-G.
Très bien. Très bien.
Et la deuxième bande dessinée nouveauté qui est sortie, qui va sortir en janvier, c'est Blake et Mortimer, qui est aussi un très très grand classique de la bande dessinée qui était dessinée par Jacobs et qui est mort aussi en même temps que dans les mêmes années que Hergé. Ça, c'est aussi une bande dessinée un peu classique, un peu difficile parce que beaucoup de textes, mais très 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 bien dessinée et est aussi très très bien tournée au niveau tout ce qui est géopolitique. C'est très très intéressant à ce sujet-là. Et donc là, c'est deux auteurs qui ont repris ça, un scénariste qui est Yves Sant et un dessinateur qui est André Julliard. Très intéressant parce qu'ils ont repris exactement la même façon de dessiner que Jacobs, qui lui faisait les histoires et les dessins à l'époque tout seul. Et donc là, ils reprennent en fait, dans ce 23e opus, ils racontent ce qui s'est passé juste avant le premier et fameux épisode de la série qui s'appelait Le secret de l'Espadon. Donc
d'accord.
Si vous voulez savoir ce qui s'est passé juste avant Le secret de l'Espadon avec Blake et Mortimer, n'hésitez pas à vous procurer Le bâton de Plutarque, qui est la 23e édition de Blake et Mortimer. Et je suis sûr que vous pouvez le trouver chez Beguiling.
Et enfin, pour finir, Serge, je crois que tu veux lancer un petit défi à nos auditeurs.
Oui, en effet. Je vous propose à chaque chronique, si vous avez bien écouté, de répondre à une question et de pouvoir gagner une bande dessinée. Oui, une bande dessinée. Cette semaine, si vous allez sur le site de Choc FM, vous allez pouvoir répondre à la question et il y aura un tirage en fait de la meilleure. Un tirage de toutes les meilleures réponses. Cette semaine, je vais proposer une BD de Anki Bilal, un Yougoslave. C'est le BD qui s'appelle Le seul sommeil du monstre, qui est avant tout en fait un livre sur la mémoire, surtout la mémoire yougoslave, lieu de naissance d'Anki Bilal. Un magnifique bande dessinée. C'est peint, c'est des images peintes, c'est fantastique. Donc ma question aujourd'hui.
Oui, la question, Serge.
C'est de vous demander en fait. Comment s'appelle l'étudiant que Tintin rencontre dans Le Lotus Bleu?
Oh, comment s'appelle l'étudiant que l'auteur de Tintin a rencontré dans Le Lotus Bleu? Très bien. Et cet étudiant était originaire d'une partie du monde, hein, n'est-ce pas?
Exactement.
Voilà. Alors, pour répondre à la question, pour nos auditeurs, vous allez trouver la question sur la page Facebook de Choc FM 105.1. Donc, vous vous rendez sur la page Facebook de Choc FM 105.1. Dans quelques minutes, la question sera mise et vous pourrez répondre. Et le premier auditeur, c'est ça, qui répond correctement, pourra donc gagner cette bande dessinée. Et rappelle-nous le titre de cette bande dessinée.
Alors, c'est Le sommeil du monstre de Anki Bilal.
Eh bien Serge, merci beaucoup pour cette belle chronique sur la bande dessinée. On te retrouve la semaine prochaine. Merci et bonne journée.
Merci Xavier, bonne journée.